Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent et bien sûr à tous ces auditeurs de Radio Maria qui, dans cette nouvelle année, en tout cas, retrouvent cette émission et évidemment que nous avons essayé et que nous essayons de vivre sous le regard de Saint-Luc. Une année, en tout cas, nouvelle, où je souhaite en tout cas dire à tous nos amis auditeurs eh bien, une très belle année sous le regard et sous les auspices, bien sûr, eh bien, de cet évangéliste qui a su manifester combien eh bien, la grâce de ces évangiles ont été d'une grandeur et d'une splendeur pour l'ensemble du peuple de Dieu et de ceux qui l'ont écouté. Aujourd'hui, en particulier, je voudrais vraiment repartir sur les bases de ces premiers chapitres du livre de Saint-Luc que nous connaissons, de l'évangile selon Saint-Luc, qui sont les évangiles de l'enfance. Et nous savons comment ces évangiles ont été profondément, en tout cas, décrits et remis à l'honneur tout au long de ce temps de Noël que nous avons vécu jusqu'à dimanche dernier et que nous continuons, en tout cas, à méditer sous le regard de l'Esprit-Saint. Mais aujourd'hui, c'est bien avec l'évangile de l'enfance chez Saint-Luc que nous allons essayer d'entrer dans l'imaginaire et je pourrais dire dans la volonté qu'a eu Saint-Luc de nous apporter une réponse sur la notion même de ce que peut être un Seigneur, un Sauveur, un être particulier, un Messie, un être particulièrement, en tout cas, enveloppé du désir de sauver l'humanité qui avait été perdue eh bien, à un moment donné de cette humanité. Et pour cela, eh bien, l'évangile de Saint-Luc essaie de partir sur une base descriptive de ce que nous connaissons au fond de la structure même des naissances. Et pour cela, je voudrais vous rappeler que dans la structure de l'évangile selon Saint-Luc, au chapitre 1, au verset 5 à 25, nous avons d'abord l'annonce, bien sûr, de Saint Jean à Zacharie. Vous savez, l'annonce faite par l'ange, puis l'apparition, bien sûr, de cet ange et bien sûr du message qu'il serait désormais eh bien, le père d'un enfant avec Élisabeth, qui était celle qui était considérée comme la stérile. Et puis enfin, de l'autre côté, nous avons l'annonce, bien sûr, de Jésus à Marie comme un parallèle au Nouveau Testament et à la nouvelle alliance à laquelle nous devons, en tout cas, nous mettre en regard et que l'Évangile, selon Saint-Luc, essaie de rappeler. L'Évangile, c'est d'abord une bonne nouvelle. C'est passer d'une nouvelle qui était profondément enfouie en nous, celle d'une semi-résurrection que nous attendions à la véritable résurrection. Et c'est en cela que le récit évangélique, particulièrement de Saint-Luc, nous invite à entrer dans l'atmosphère déjà d'une véritable révélation et d'une sanctification qui est particulièrement évidente au vu et particulièrement à l'écoute de cet évangile. Aujourd'hui, ce que je voudrais vraiment rappeler, c'est simplement les choses les plus élémentaires. Deux approches peuvent être manifestées dans l'évangile selon Saint-Luc, deux approches qui sont peut-être les unes et les autres très particulières, mais très compréhensibles. D'abord, Saint-Luc a essayé de faire à travers son récit évangélique une description biographique de Jésus. Mais au fond, ce n'était pas dans sa perspective biographique qu'il a voulu, en tout cas, mener l'évangile. Il a voulu manifester à la fois l'aspect totalement singulier, nous l'entendons, un édit de César, une période historique bien précise, mais il a voulu, en tout cas, l'ouvrir à une dimension qui n'était pas du tout historique. Et donc, c'est pour cela que l'aspect biographique est parsemé d'éléments qui sont totalement spirituels, comme pour manifester à chacun de ceux qui entendraient l'évangile de Luc une dimension qui est particulièrement simple et peut-être même totalement innovante pour l'époque où elle a été écrite. Le genre littéraire est particulier, nous le sentons bien. Les apparences, les récits se paraissent biographiques, mais de manière très, très lâche et très, très vaste. C'est pour cela que nous sommes obligés de regarder, non pas simplement d'une manière, je pourrais dire, du prisme historiciste, mais du prisme qui est plutôt de l'ordre du spirituel, parce que Saint-Luc, comme Saint-Matthieu, qui a aussi essayé de donner un aspect historique à la venue du Christ, eh bien, nous avons là une interprétation de Matthieu et Luc qui veulent entrer dans un genre particulier sans en donner, en tout cas, toute la saveur et en tout cas, tous les fruits. L'essentiel de l'évangile, selon Saint-Luc, est de nous rappeler que la tradition familiale est d'une importance extraordinaire dans le peuple juif. Et qu'au fond, ce qui a été profondément voulu et porté par Saint-Luc, c'est bien cette capacité de retrouver les racines juives et, je pourrais dire même, les racines, les plus essentielles de Jésus à travers, justement, la lignée historique et particulièrement la lignée davidique qu'il devait, en tout cas, rejoindre. Et tout cela s'est fait selon les principes d'une lecture, au fond, des textes de l'Ancien Testament et de la volonté de raccrocher Jésus à la divine réalité des textes hébraïques. Pour cela, eh bien, dans l'Évangile, selon Saint-Luc, nous avons là une scène profonde qui est celle de la généalogie. La généalogie de Jésus est comme un rappel profond que Jésus vient d'une lignée davidique, en essayant, bien sûr, de ne pas tout raccrocher, mais de tout mettre sous un regard qui est profondément, en tout cas, je l'espère pour tous ceux qui l'ont lu, l'Évangile selon Saint-Luc, eh bien, d'un regard qui n'est pas simplement historique. L'étape profonde qui va nous révéler justement cela, eh bien, est révélée dans la ville dans laquelle Jésus naît. C'est la ville de Bethléem. Bethléem est bien la ville de Jessé, le père de David. Dans la première lettre de Samuel, au chapitre 16, les versets 1, nous entendons cette belle phrase « Jusqu'à quand resteras-tu à pleurer Saül, alors que moi, je t'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël ? Emplis d'huile ta corne et va, je t'envoie chez Jessé, le Bethlémite, car je me suis choisi un roi parmi ses fils. » David était donc le fils de Néphrathéen de Bethléem de Juda, qui s'appelait Jessé et qui avait 8 fils. Par la suite, la mention de Bethléem est rattachée à la figure royale du Messie, descendant de David. Ainsi, nous l'entendons dans le texte de Matthieu, au chapitre 5, au verset 1 à 7. « Toi, Bethléem Ephrata, le moindre des clans de Juda, c'est de toi que me naîtra celui qui doit régner sur Israël. Ses origines remontent au temps de jadis, aux jours antiques. C'est pourquoi il les abandonnera jusqu'au temps où il aura enfanté celle qui doit enfanter. Alors, le reste de tes frères reviendra aux enfants d'Israël. Il se dressera, il fera paître son troupeau par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom de son Dieu. Ils s'établiront, car alors il sera grand jusqu'aux extrémités du pays. Celui-ci sera paix. Assur, s'il envahit notre pays, s'il foule notre sol, nous dresserons contre lui 7 pasteurs, 8 chefs d'hommes. Ils feront paître le pays d'Assur avec l'épée, le pays de Némrod avec le glaive. Il nous délivrera d'Assur, s'il envahit notre pays, s'il foule notre territoire, alors le reste de Jacob sera au milieu des peuples nombreux comme une rosée venant du Seigneur, comme des gouttes de pluie sur l'herbe. Voilà un peu ce que nous avons au travers de la lignée davidique. Et nous devons en tout cas en être fiers, car Jésus est donc de lignée prophétique. Et donc, par cela même, sa naissance est dans la lignée même de celle de Jean. C'est-à-dire que nous faisons, à travers les évangiles de l'enfance, le passage de ce que nous connaissons désormais, de cette alliance à laquelle Dieu nous avait profondément et bien porté, jusqu'à cette alliance où il fait, au fond, chacun de nous, l'un des membres premiers de ce nouveau chapitre dans lequel Jésus est le premier. La salutation de l'ange à Marie est comme un appel et un rappel à ce pourquoi nous sommes véritablement, eh bien, je pourrais dire, rattachés et ranimés. L'essentiel du récit de cette annonce de l'ange, bien sûr, à Marie, est aussi comme, je vous le rappelle, le récit de l'annonce, eh bien, de Dieu à Gédéon. Je pourrais dire, au chapitre 6 du livre des Juges, le Seigneur avec trois vaillants guerriers. On trouve aussi dans le livre de Ruth un certain nombre d'éléments qui nous rappellent aussi, eh bien, cette salutation de l'ange. C'est véritablement comme un rappel de l'ancien au nouveau, comme si Dieu voulait nous rappeler que tout ce qu'il a manifesté au sein de cette ancienne alliance se réalise au travers de Jésus, comme si définitivement se lie dans notre humanité une vérité qui s'était faite jour tout au long, eh bien, de l'épopée du peuple juif, mais qui n'avait trouvé son achèvement qu'au travers, bien sûr, de quelques prophéties, mais qui n'était jamais, depuis Michée jusqu'à l'arrivée de Jésus, eh bien, que parole. Et cette parole désormais devient être de chair, être de vie. Et c'est en cela que Jésus est complètement pour nous, eh bien, l'élément, le cristal d'or dans lequel Dieu peut désormais manifester sa présence et son âme. Le rôle de l'Esprit Saint est important dès le départ, dès la venue dans l'épisode de l'enfance. La formule que l'ange va dire à Marie, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la dynamique du Très-Haut te couvrira de son ombre, eh bien, cette formule vient surtout du livre de l'Exode, comme pour dire que depuis toute l'histoire de la construction de l'Arche de l'Alliance par Moïse, en remontant depuis la création, Dieu a consacré l'homme et a fait en lui sa demeure. Et par là même, au moment même de la création et de la volonté qu'il a eue de créer son Fils, il s'est rappelé, il a manifesté véritablement la puissance de son amour, la puissance de sa vie sur cet enfant qui désormais devient présence de sa parole, présence de sa vie désormais dans notre humanité. C'est peut-être là que nous pouvons voir l'importance véritablement de l'évangile dans nos vies et de l'évangile de Luc dans l'expression même de ce à quoi Dieu voulait vraiment manifester sa présence au sein de ce monde. Je l'ai redit, et l'ombre de cet Esprit Saint, l'ombre du Très-Haut, la dynamique du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dieu, par sa présence, la présence au-dedans de nous, désormais, va entraîner une conception nouvelle de la vie. La vie, par là même, à travers Jésus, va devenir nouvelle. Et c'est en cela que c'est véritablement à travers l'évangile de Luc une conception spirituelle. Nous ne restons pas simplement dans le fruit d'une enfance qui serait simplement une enfance donnée biographiquement selon les principes d'un genre littéraire qui est connu, mais bien une volonté d'ouvrir le fruit de ce qui se passe au sein de la Vierge Marie comme une conception nouvelle de l'homme, une véritable volonté de construire et de parachever ce qui existait déjà au travers, eh bien, de l'épisode des prophéties de l'Ancien Testament. La naissance même de Jésus est non pas seulement un prolongement de la lignée de ce qui s'est passé tout au long de la vie du peuple hébreu, mais bien la conception normative d'une vie qui est désormais basée sur la présence et la construction non seulement du parachèvement de la vie du peuple hébraïque, mais en même temps de la volonté de construire désormais un nouveau peuple, une nouvelle vie, une nouvelle structure qui s'incarne et qui désormais devient un lieu de vie dans le Seigneur. Et c'est pour cela que vraiment l'évangile de l'enfance est une beauté, une merveille, parce qu'elle dit vraiment combien Dieu a voulu incarner véritablement notre humanité, a voulu vraiment porter dans son être de chair véritablement toute la dimension de la vie divine. Et en cela, eh bien, les évangiles de l'enfance, particulièrement celui de Luc que nous étudions en tout cas, nous montrent bien combien la proposition que fait Saint-Luc est bien de nous faire entrer dans la logique de ce que va nous dévoiler en tout cas tous les textes qui vont être les textes de l'évangile de l'enfance. Et je voudrais vous dire que cet évangile de l'enfance est un sommet de tout ce que, eh bien, nous allons entendre peut-être dans quelques mois autour, eh bien, de la passion et de la résurrection de Jésus. Ne l'oubliez pas, les logiques sont parfois différentes. On peut avoir une logique biographique, mais on peut avoir une logique, comme je l'ai dit aussi, d'une autre manière, c'est-à-dire une volonté de décrire de manière historique quelque chose qui s'est passé de manière spirituelle et peut-être même encore plus de manière, je pourrais dire, qui s'est imprimée dans le cœur des hommes. Le récit de Matthieu, qui vient au chapitre 1 et 2 pour les évangiles de l'enfance, et les chapitres 1 et 2 de Luc, nous donne parfois une forme, comme je pourrais dire, de mini-message. Dans Matthieu, au chapitre 1 et au chapitre 2, nous avons d'abord la généalogie de Jésus, ensuite l'annonce à Joseph par l'ange Gabriel, la visite des mages, la fuite en Égypte, le massacre des enfants à Bethléem et son établissement désormais à Nazareth. Dans Luc, nous avons là une autre manière de regarder. Nous avons les deux annonces de naissance, la naissance de Jean et la naissance de Jésus, les deux récits de naissance, toujours dans les chapitres 1 et 2, la circoncision accompagnée des prophéties pour Jean et pour Jésus. Ensuite, les deux brèves mentions de la croissance de Jésus qui grandissait en sagesse et en grâce, la rencontre des deux mamans et leur cantique, en fait, comment ils ont pu manifester cela, et enfin Jésus parmi les docteurs de la loi. Nous sommes là vraiment dans la structure même des deux logiques différentes qui sont apparues au travers, eh bien, de ces deux évangiles. Et c'est en cela que nous pouvons en tout cas voir la puissance et la grâce que peuvent nous donner en tout cas ces textes. Mais je crois que aussi, nous pouvons aller bien plus loin. Au fond, l'humilité, la confiance, la suffisance de cette naissance nous donne déjà véritablement la force du message de ce roi d'Israël qui naît en ce jour de Noël. Souvent, l'Emmanuel, nous le chantons. Souvent, l'Emmanuel, nous le vivons. Mais souvent, nous avons du mal à bien comprendre la force de cette présence de Jésus dans notre humanité. Et le texte profondément de Luc nous invite à bien comprendre la supériorité de ce qui s'est passé au moment même où Jésus prend chair. Il devient le dénôtre. Il rentre dans notre humanité et devient personnellement l'un de ceux qui va, par sa vie, manifester autre chose que ce que les grands rois, que les grands prophètes ont pu manifester à travers leurs paroles. Il devient l'être de chair. Il devient l'être par lequel l'humanité est désormais profondément renouvelée. Eh bien, tout simplement, nous allons continuer notre périple dans cet évangile et particulièrement, nous allons maintenant, en tout cas, porter notre regard sur l'enfant Jésus qui naît à Bethléem dans une étable, dans un lieu où, comme nous le disons et comme nous l'initions au travers de l'ensemble de nos homélies et des manières de regarder cet épisode, nous le voyons à Noël, c'est vraiment le cri de Pâques. Nous ne pouvons entendre Jésus qui naît sans penser déjà et prophétiquement à ce qui se passera à Pâques. Dans la Bible, la présence de l'ange du Seigneur annonce une information qui ne peut venir que du ciel. Le messager de Dieu est porteur d'une parole destinée à dévoiler ce que l'homme ne peut découvrir par lui-même. C'est bien ce que les bergers entendent, une nouvelle merveilleuse que l'homme ne peut concevoir en son imaginaire. L'évangile que nous entendons à Noël, cet évangile profondément de la naissance du Christ, c'est la naissance de celui qui désormais va être un ressuscité, qui va être profondément celui qui va conférer à l'homme une naissance nouvelle. Et c'est en cela que nous savons que les évangiles, et particulièrement l'évangile de Luc, nous invitent bien sûr à redécouvrir la notion même de cette parole. Oui, celui-ci est mon fils bien-aimé, nous l'avons entendu dimanche dernier à travers les évangiles du baptême. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie. Eh bien, c'est bien ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Le fond de toute l'histoire humaine se confie et se confond en cette nouvelle naissance, en cette nouvelle Pâque, en cette résurrection qui dit au travers du cri que l'enfant va faire jaillir, eh bien, après sa naissance sur cette terre et qui va résonner au travers du cri des bergers qui vont bien sûr manifester cette grâce en disant « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix aux hommes de bonne volonté ». Oui, c'est tout cela que Dieu vient mettre en marche en nous. Il vient, par sa présence, manifester à tout l'homme l'organisation, la puissance d'une parole qui désormais vient régénérer l'homme, vient le faire devenir de plus en plus un être debout, un être capable d'être à l'image de celui qu'il a envoyé. Et pour cela, eh bien, il devient un signe, nous l'avons entendu dans l'intermède, c'est l'astre nouveau, c'est l'astre par lequel la force de Dieu a été profondément, portée pour l'humanité. Oui, cet astre, il continue et il continuera encore à faire des merveilles. Nous le verrons petit à petit, tout au long de notre périple, dans l'évangile de Saint-Luc. Mais véritablement, cet astre, il commence à luire dans l'âme de ceux qui le voient. Les bergers, les mages, tous ceux qui, au fond, auront eu contact avec lui, parce qu'ils verront à travers lui que la parole devient effective, elle devient efficace, elle devient même celle qui continue à composer et à coordonner cette création qui devient si nouvelle et si belle. Vraiment, grâce à cette naissance, l'homme est désormais revêtu de la résurrection. Il est revêtu, bien sûr, de la bonne nouvelle, du signe éclatant qui l'illumine et qui le rend par là même comme un être de vérité, un être de sainteté. Marie et Joseph sont à côté. Marie est au milieu de tous ceux qui entendent. Et pourtant, comme nous le dit saint Luc, en fait, elle n'est pas troublée. Elle n'est en toute chose qu'elle-même. Elle ne vise et ne voit que ce qu'elle a entendu à travers la bouche des apôtres de Dieu, c'est-à-dire ces messagers qui sont venus à elle et qui lui ont annoncé, pardon, les véritables lois de la bonne nouvelle. Le Verbe s'est fait chair en elle. L'être suprême s'est réalisé à travers elle. La révélation de l'homme-Dieu s'est faite à travers sa propre intimité de femme. Et en cela, la relation avec Joseph est manifestée d'une manière particulière. Joseph devient pour elle le protecteur, le berger, profondément le chef de la famille. En cela, c'est bien sûr la famille tout entière du peuple de Dieu qui accueille la résurrection, la bonne nouvelle, d'une joie qui ne s'éteint et qui ne s'éteindra jamais dans le cœur de ceux qui en ont assisté la première phase. Oui, aujourd'hui, de la crèche à la croix, le mystère de Jésus devient véritablement un mystère qui éclaire, qui coordonne, qui rend l'homme profondément et humainement heureux en toutes choses. Car désormais, de l'Ancien Testament, nous passons désormais à la bonne nouvelle du salut, à la nouvelle que Dieu ne laisse aucun de ses enfants sans qu'il ne lui montre le chemin de l'éternité et de la vie. Oui, la vie, un don précieux de Dieu, un don qui ne se livre à aucun être humain, quel qu'il soit, et ne se vit qu'au travers des yeux et de la puissance de grâce que Dieu vient maintenant révéler à l'homme. Ainsi donc, Jésus ne reste pas simplement qu'un être quelconque, un être qui, dans une biographie, porte simplement quelques traces historiques et peut-être même généalogiques ou même spirituelles. C'est l'être par excellence, car il ordonne l'humanité à une nouvelle expérience qui se vit non pas dans le cycle de l'histoire du peuple. Il ne le dévie pas de cette histoire. Au contraire, il l'accomplit. Il le rend plus juste. Il l'ajuste véritablement à la grâce que désormais toute humanité, quelle qu'elle soit, quelles que soient ses orientations, ne peut se vivre qu'au travers même de la puissance d'une grâce. Et cette grâce, elle ne se révèle qu'au travers d'un amour infini et de cet amour qui ne peut être donné et qui ne peut être révélé qu'à travers Dieu lui-même. C'est vrai, véritablement, à travers cet évangile de l'enfance, un révélateur de ce que peut être la Pâque, cette Pâque du Seigneur, Jésus, le premier-né, celui que Joseph et Marie auront manifesté à ce monde à travers une théophanie extraordinairement belle, donne véritablement à notre humanité une leçon. Non pas une leçon d'histoire, une leçon, je pourrais dire, de courage, mais une leçon spirituelle. Car au fond, de l'Ancien Testament que saint Jean conclut d'une manière fabuleuse, va naître la présence d'un être de chair, d'un Verbe incarné, d'un amour infini qui se déploie dans notre humanité. Et cet être va être sous le sceau de la grâce du Saint-Esprit qui couvrira de son ombre tous les êtres humains et qui manifestera à toute l'humanité désormais qu'elle peut être debout parce qu'elle n'est plus une nation qui vit dans les ténèbres, mais que la lumière aura par sa beauté éclairée et manifestée à tous. C'est bien ce que Jésus nous montre à travers ses évangiles de l'enfance. Ne nous laissons pas abîmés par le péché, par l'insistance de la grâce. Dieu nous montre que désormais, nous sommes des êtres levés, debout. Nous ne pouvons être sous le regard et sous la puissance des ténèbres, mais désormais sous la lumière de la vie et qu'au travers de l'astre qu'est Jésus, désormais l'homme peut désormais avancer, aimer, porter en tout cas une bonne nouvelle à cette humanité. Ainsi donc, au milieu de cette enfance, au milieu de tout ce qui a porté et, je pourrais dire, manifesté la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui se révèle, c'est que Dieu veut maintenant eh bien, éveiller les âmes à une conscience beaucoup plus grande de ce qu'il peut agir et de ce qu'il peut maintenant eh bien, porter son secours à tous les hommes. Jésus, c'est bien le Fils de Dieu. Il s'appelle Emmanuel, il s'appelle Dieu parmi nous, il est bien au milieu de ceux qu'il a à sauver. Et bien désormais, entrons dans le, je pourrais dire, dans l'histoire même de Jésus, entrons dans sa vie. Et l'évangile de Luc ne cesse de nous démontrer que parfois, au milieu de tant de péripéties historiques, de tant d'éléments qui peuvent être très biographiques, il y a quelque chose de très spirituel qui ressort de l'humanité de Jésus et qui deviendra pour nous le lot de notre vie chrétienne, le symbole même de ce que nous aurons à imiter et à faire prévaloir dans ce monde d'aujourd'hui. Et bien que notre périple avec Saint Luc vous permette d'entrer dans cette dynamique et que vous entriez comme moi-même avec une joie profonde d'annoncer cette bonne nouvelle que le Christ est désormais né, mais non pas pour nous-mêmes, mais l'est né pour que notre humanité soit totalement sauvée.
Bien, merci, merci beaucoup, Père Pascal de Grâce. Merci infiniment pour cet enseignement sur l'Évangile selon Saint Luc. Et Père, eh bien, on vous retrouve le mois prochain.
Eh bien oui, on se retrouve et je l'espère, on va entrer dans le vif du sujet avec le baptême de Jésus et puis on va parler eh bien, de ses premiers pas à la synagogue puisque c'est sa première expression publique à la synagogue où il va eh bien, trouver eh bien, ces mots du prophète Isaïe et qui vont encore manifester la puissance de ce qu'il va révéler à tous qu'il est le sauveur et vraiment nous en avons besoin en ces temps qui sont les nôtres.